mitzvah positive numéro 31, Mizat Ase Lishbot Mimlacha Be Yom HaKippurim, mitzvah positive de ne pas travailler le jour de Kippour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cette mitzvah, il faut parler aussi des Aseret Yemei Teshuvah, c'est-à-dire des jours qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour, les 10 jours de Teshuvah. Et finalement, ce qu'on peut remarquer, c'est que Rosh Hashanah, qui est bien, que ce soit le jour du jugement, il est quand même un peu moins terrible que les 10 jours de Teshuvah qu'il y a entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Pourquoi ? Parce que Rosh Hashanah, finalement, c'est un jour de joie, un jour de joie où on va couronner Hashem, on va accepter sa royauté sur nous, ses commandements, comme on avait expliqué que c'est ramené qu'à l'époque les rois étaient intronisés avec le son du chauffard. Donc le son du chauffard et un des sens de ça, c'est aussi de déclarer la royauté de Hachem sur nous. Donc c'est un jour de joie, bien que c'est vrai qu'aussi en parallèle, on doit avoir un comportement exemplaire pour avoir donc un bon jugement pour l'année. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile, mais en tout cas c'est un jour de joie Rosh Hashanah. Mais en ce qui concerne la Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah, alors il y a un Rambam qui fait assez peur, qui écrit que celui qui a été jugé à Rosh Hashanah comme étant un Benoni, c'est-à-dire quelqu'un de moyen, on lui laisse une chance supplémentaire jusqu'à Yom Kippour de s'améliorer. Et le Rambam écrit que si il a fait Teshuvah pendant ce temps-là, alors il sera inscrit dans le livre de la vie. Et si Chas V'Shalom il n'a pas fait Teshuvah, il sera inscrit dans le livre de la mort. Chas V'Shalom. Alors, la grande question connue, c'est pourquoi le Rambam il écrit ça ? Puisque s'il était Benoni, il était moyen à Rosh Hashanah, eh bien il suffirait a priori qu'il ajoute une mitzvah ou deux ou trois inhabituelles, et comme ça il fera pencher la balance du bon côté, et il sera tzaddik, sans besoin de faire teshuvah. Et la réponse connue, je ne me rappelle plus au nom de qui cela a été dit, c'est que c'est tellement une grande avéra de ne pas faire teshuvah pendant cette période des Aseret Yemei Teshuvah, des 10 jours de teshuvah, où Hachem est tellement proche de nous, c'est-à-dire où il est facile de faire teshuvah. Les portes de la teshuvah sont ouvertes, il suffit de réfléchir un peu, de chercher un peu dans son comportement des choses améliorées, ça va venir très facilement, parce qu'il y a une grande aide divine dans ce domaine-là. Donc c'est tellement grave de passer à côté, que même si on rajoute une mitzvah ou deux ou trois en plus, ça ne compensera jamais la gravité de ne pas avoir fait teshuvah. Parce que le Rambam l'avait expliqué, quand on dit qu'il y a un compte des péchés et des mitzvot qu'une personne a fait, ce compte-là, il n'est pas quantitatif. C'est-à-dire qu'on ne va pas compter, il a fait une mitzvah, il a fait une avéra, il a fait deux mitzvahs, deux avérot, donc c'est équilibré. Le Rambam explique que c'est qualitatif. C'est-à-dire que des fois, une avéra peut être extrêmement grave et compter comme beaucoup de mitzvot, ou des fois, au contraire, une mitzvah peut être tellement grande et peser comme beaucoup d'avérot. Et ça, il n'y a que Hachem Yitbarach qui sait faire ce calcul-là, parce que ça dépend aussi de la nature de la personne. Donc on répète, donc cette question, en vérité, on peut y répondre. C'est tellement, comme on l'a dit, c'est tellement une grande avéra d'être passé à côté, de ne pas avoir fait Teshuvah, que ça ne sert à rien de rajouter nous deux mitzvahs en plus, ça ne compensera pas cela. Donc là, ça nous fait donc prendre conscience de l'importance, vraiment, pendant cette période, de s'isoler un moment et d'essayer de voir, en prenant un crayon, une feuille, tout ce qu'on peut améliorer dans notre comportement, et ne serait-ce que si on a amélioré un comportement déjà, bien sûr, Bli Neder, toujours en prenant Bli Neder, alors c'est déjà, ça s'appelle déjà qu'on a fait Teshuvah. Maintenant, la deuxième question qui est posée sur ce Rambam, classique, la question classique, c'est pourquoi alors on voit des gens qui sont rachats et qui font pas Teshuvah et qui continuent à vivre ? Alors, on peut amener plusieurs réponses. Déjà, ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que déjà, ce compte-là, c'est pas ce que nous, on voit avec nos yeux qui est rachat, qui n'est pas rachat. C'est seulement Hachem qui sait le faire, parce que c'est pas un compte qui est quantitatif, mais qualitatif. Probablement qu'interviendra la notion de mézid et shogeg, si quelqu'un y fait la faute en connaissance de cause, ou bien s'il le fait de manière involontaire, c'est sûr que ça, dans la pondération des mitzvot et des averot, ça va jouer. Bien que c'est pas une intelligence de dire toujours je vais être shogeg, je veux pas apprendre, comme ça je vais pas savoir, comme ça je serai pas responsable. C'est sûr que c'est pas intelligent de réfléchir comme ça, parce que c'est avoir peu d'ambition dans la spiritualité, c'est vouloir rester petit. Donc c'est sûr qu'il faut apprendre. Et si on peut apprendre, on doit apprendre. Parce que c'est sûr que dans le ciel, on reprochera à quelqu'un qui pouvait apprendre s'il n'a pas appris. Tout ce qu'on dit, quelqu'un est shogeg, il a fait de manière involontaire, c'est vraiment parce qu'il ne savait pas. Mais s'il peut savoir, il doit apprendre. Également, je pense qu'on peut dire qu'interviendra probablement le fait aussi que quelqu'un, il a un très grand yetzerara, une très grande tendance à faire tel ou tel péché. Donc ça lui est très difficile de se dominer dans ce domaine-là. Ce sera pas aussi grave que si quelqu'un il fait le même péché alors qu'il n'a pas du tout cette même tendance à ce péché. Hachem, il sait évidemment les forces de chacun et tout rentre en ligne de compte. Et on peut même peut-être dire qu'interviendra aussi le fait que quelqu'un peut-être peut mettre au monde un tzaddik, donc à cause de ça, il sera peut-être sauvé, etc. On peut trouver beaucoup de réponses pour expliquer, pour répondre à cette question, pourquoi un rachat peut vivre. Ce n'est pas du tout, nous, avec nos yeux, qu'on peut voir qui est rachat, etc. Et bien sûr, il y a aussi une question que j'ai entendue, dans ce cas-là, comment ça se fait que l'année où Avraham Avinu, Alav Shalom, il est niftar? Est-ce que ça veut dire que ce Rosh Hashanah, il a été jugé qu'il n'était pas tzaddik, chas v'shalom? Et le Ravad, il répond à ça, il dit bien sûr que chacun d'entre nous, il a un nombre d'années de vie qui est fixé. Et évidemment, même un tzaddik, une fois qu'il a fini son nombre d'années, il doit partir. Et ça ne veut pas dire parce qu'il est rachat, chas v'shalom. Mais ici, on parle que le rachat en question qui doit mourir, c'est celui qui doit quitter ce monde avant son terme. Mais évidemment que chacun il a un terme et ça ne veut pas dire que si il a atteint ce terme qu'il était rachat, non, il peut tout à fait être tzaddik. Donc voilà, ça c'était pour expliquer ce Rambam qui explique l'importance de faire teshuva pendant la série Yemei Teshuva et comment ça marche, comment ça fonctionne le compte des mitzvot et des averot. Maintenant, et c'est la partie la plus importante, comment est-ce qu'on fait teshuva? Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de dire pardon Hachem pour telle faute ou telle faute. Bien sûr, le vidouille, c'est important, il faut avouer sa faute, ça fait partie de la teshuva. Mais d'abord, je pense qu'il faut, d'après ce que j'ai vu dans les livres, il faut s'isoler au moins, on va dire, une demi-heure par jour pendant cette période et passer en revue tout notre quotidien, que ce soit les jours de Chol, les jours de la semaine ou bien du Shabbat, des fêtes, et voir toutes les mesures concrètes et réalistes qu'on peut prendre sur nous, blin neder, d'améliorer. Évidemment, c'est du concret qu'il faut. La teshuva, fixer par exemple un moment à l'étude de la Torah, aller à des cours de Torah, se fixer d'aller à des cours de Torah, que ce soit le Shabbat, que ce soit en semaine. Bien sûr, dans tous les domaines, on peut trouver des choses à dire. Comme il dit le Pri Chadash, faire très attention au tolaïm, aux petits vers qu'il peut y avoir dans les fruits et les légumes. Et maintenant, il existe des livres en français qui expliquent comment est-ce qu'on doit. Faire la bédica, donc comment est-ce qu'on doit vérifier chaque fruit et légume. Il y a une manière très particulière de faire en fonction du fruit du légume, du légume, en fonction des petites bêtes qu'il peut y avoir dedans. Et ça, c'est très grave parce qu'on sait que chaque petite bête, c'est un issour minatora de la manger. Bien sûr, faut se fixer des guédarim, donc des règles dans ce que nos yeux y voient, dans ce qu'on dit, la shonara, la rota shonara, se reporter au cours de la shonara. Et ce n'est pas les domaines qui manquent dans la Torah. Évidemment, c'est infini. Dans tous les domaines, on peut trouver des choses à arranger. Et même quelqu'un qui est un tzaddik, d'année en année, il va affiner davantage. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait teshuva. C'est vraiment en prenant le temps, un stylo, une feuille, et écrire des choses qu'on doit améliorer et réfléchir à tout ce qu'on peut améliorer. Ça, c'était donc une introduction à cette mitzvah. Parce que je ne peux pas parler de Yom Kippour sans parler de Aseret Yemei Teshuva qui est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et donc cette mitzvah, on reprend maintenant la mitzvah positive, elle consiste donc à ne pas travailler le jour de Kippour comme il est écrit, Shabbat Shabbaton hu lachem. Ce sera le Shabbat du Shabbat pour vous. Et tout celui qui fait un travail à Yom Kippour, il a un des travaux interdits donc Shabbat, puisque ce sont les mêmes travaux interdits Shabbat qui sont interdits de faire à Yom Kippour, eh bien il a transgressé cette mitzvah positive, et en plus il a transgressé aussi sur une mitzvah négative qu'on verra bien plus loin. Et celui qui transgresse, qui fait un travail interdit pendant Yom Kippour, s'il le fait bemezid, c'est-à-dire de manière volontaire, il est chayav karet, de retranchement, et si il le fait de manière involontaire, il est chayav d'un korban khatat. Donc à l'époque, il devait apporter un korban khatat. De nos jours, il faut que chacun d'entre nous, normalement, il a un carnet où il note quand de temps en temps, il fait une faute shogeg, il allume la lumière sans faire exprès Shabbat, etc., de noter la date et qu'est-ce qu'il a fait comme cela. Comme ça, quand le Bétamigdash sera reconstruit, il devra apporter les corbanotes en fonction de ça. C'est une misa qui s'applique en tout lieu, toute époque, hommes et femmes. Et on rappellera comme ça de manière très, très, très succincte les cinq interdits principaux qu'il y a à Yom Kippour, à part évidemment tous les travaux interdits. Évidemment, il ne faut pas manger, ni boire, ni s'enduire avec donc des matières, s'enduire le corps, ni porter des chaussures en cuir, et pas de relations conjugales. Et tout ça démarre bien sûr dans les horaires qui sont marqués dans les calendriers. C'est pas la nuit tombée, c'est avant la nuit, avant le coucher du soleil, au coucher du soleil. Ensuite, misa positive lamed bet, misa tassé les tarnot biyom kippourim. Misa donc positive de jeûner le jour de Kippour, comme il est dit, arbe asor la chodesh hashviyazé, yom kippourim hu, vinité metam shudrem, vous mortifierez vos personnes. Et il faut commencer le jeûne, donc on m'a dit, depuis la Shekia, c'est marqué dans les carnets, donc l'horaire où commence le jeûne, c'est en pleine journée, et donc c'est pas la nuit tombée. Et il faut savoir qu'il y a une mitzvah, une grande mitzvah, de beaucoup manger la veille de Yom Kippour. Et on lui donnera, c'est marqué dans la halakha, qu'on lui donnera le salaire comme s'il avait jeûné 2 jours, le 9 et le 10. Pour cela, bien qu'en général le salaire d'une mitzvah dépend de sa difficulté à être réalisée, et évidemment manger c'est plus facile que de jeûner, malgré tout, ici c'est spécial, le salaire donné à cette mitzvah de manger beaucoup la veille de Kippour, et le salaire donné à quelqu'un qui a jeûné 2 jours de suite, ce qui est énorme, parce que jeûner 2 jours de suite c'est très très dur, et là en faisant cela, on lui donne, en mangeant beaucoup, on lui donne ce salaire-là. Alors évidemment, quand on dit manger beaucoup, c'est-à-dire étaler sur toute la journée. On raconte sur le Gaon de Vilna qu'il avait toujours quelque chose en bouche ce jour-là, même un bonbon, etc. Étaler donc, et on verra que le Yetzer Hara, évidemment, ce jour-là, il nous fera tout faire, et il nous fera oublier, voudrait nous faire oublier de manger. Évidemment, comme c'est une grande mitzvah. Et donc, évidemment, il faut acheter beaucoup de provisions pour ça. Ça s'improvise pas. Maintenant, la raison pourquoi il faut beaucoup manger la veille de Yom Kippour, deux raisons principales ont été ramenées. D'abord, parce qu'on ne peut pas faire une seouda de mitzvah à Yom Kippour comme on devrait le faire, tellement c'est un jour de joie d'effacer nos fautes, donc on le fait la veille. Et la deuxième raison, c'est que Dieu n'a pas voulu que le jeûne nous affecte, nous affaiblisse. Donc, il nous a donné cette mitzvah pour que notre corps prenne beaucoup de réserves. Évidemment, on pourra mieux supporter le jeûne. Cela s'applique en tout lieu, toute époque, pour les hommes et pour les femmes.